VOA Afrique, les infos à Washington.
John Lyndon à la présentation. Bonsoir à tous. 6 opposants au maintien au pouvoir du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, ont été blessés samedi par la police lors d'une manifestation à Kengi, ville située à l'est de Kinshasa. C'est ce qu'affirme un député d'opposition. Le rassemblement de l'opposition et des mouvements citoyens sont opposés au calendrier électoral publié par la commission chargée d'organiser des élections en RDC. Il prévoit que la présidentielle se tiendra le 23 décembre 2018, prolongeant de fait d'un an le mandat de Joseph Kabila à la tête du pays. 1 million de personnes ont manifesté samedi à Paris contre des cas d'esclavage en Libye dénoncés cette semaine dans un documentaire choc de la chaîne américaine CNN, selon la préfecture de police de Paris. Les manifestants ont répondu à l'appel de plusieurs associations et notamment d'un collectif contre l'esclavage et les camps de concentration en Libye. Créé en réaction à la diffusion du reportage de CNN montrant des migrants vendus aux enchères en Libye.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le livre le plus vendu au monde est la Bible, mais le saint manuscrit a été interprété de différentes manières par différentes religions. À Washington, le nouveau musée de la Bible, financé par des fonds privés, ouvre ses portes au public ce samedi. Situé près du Capitole, il présente des expositions interactives et des Bibles datant de plusieurs siècles. Mais il alimente aussi la controverse. Un reportage de Deborah Bloch, relaté par Nathalie Barge.
Sans surprise, le musée de la Bible contient de nombreuses Bibles différentes, des chansons sur la Bible, des textes en hébreu, même des dessins de mode contemporain avec des thèmes bibliques. La Bible est importante car elle aide les gens à cheminer dans la vie, explique Tony Zeiss, directeur exécutif du musée.
Il y a beaucoup à apprendre, nous nous concentrons donc sur son histoire, son récit et son impact. Nous aimerions que le visiteur s'engage personnellement à s'impliquer davantage dans ce livre incroyable.
Plus de 100 érudits qui représentent différents points de vue ont conçu les expositions réparties sur plusieurs étages dans le grand bâtiment. Il y a des affichages interactifs pour éduquer tout en divertissant, même dans les ascenseurs. Et vous pouvez vous promener à travers une reconstitution de Nazareth, la ville où Jésus a grandi. Le directeur technique Seth Pollinger explique.
Tout a été étudié pour qu'au cours de la visite, vous puissiez vous retrouver dans les lieux comme il y a 2000 ans.
Le musée a été fondé par Steve Green, de la famille chrétienne évangélique conservatrice, qui possède Hobby Lobby, le plus grand détaillant d'art et d'artisanat privé au monde. Steve Green, le fondateur du musée de la Bible.
Il serait difficile pour nous, en tant que famille, d'essayer de cacher ce que nous croyons. Nous croyons que ce livre est ce qu'il prétend être. Mais notre rôle ici est de présenter les faits de la Bible à travers un regard plutôt journalistique.
Mais c'est discutable selon John Fay, professeur d'histoire au Collège du Messie, qui se considère comme un évangéliste libéral. Jacques Berlinerbro, directeur du programme de civilisation juive à l'université Georgetown, pense que le musée a un agenda caché.
L'idée que le musée n'a pas l'intention de convertir les gens à une lecture particulière de Dieu, de Jésus-Christ, de l'Écriture, est absurde.
Un point de vue partagé par le professeur John Fay.
Même s'ils veulent rester neutres et objectifs, il sera très difficile de présenter la Bible de cette manière, car elle est toujours vraiment ancrée dans une tradition religieuse particulière et leur façon de l'interpréter. Il est difficile de voir cela autrement qu'une tentative d'amener les valeurs chrétiennes, les enseignements bibliques, compris par les protestants évangéliques, comme les Green, au centre de la vie politique et culturelle des États-Unis.
Le musée contient d'impressionnants artefacts anciens dont certains ont été sortis clandestinement d'Irak et achetés par la famille. Les Greens ont payé une amende de 3 millions de dollars et Richard Green, cofondateur, a dit à la Voix de l'Amérique que le musée était prêt à les retourner dans leur pays d'origine. Quoi qu'il en soit, les responsables du musée encouragent les gens à venir le visiter et à décider eux-mêmes ce qu'ils en pensent.
Fin de ce bulletin d'information. Merci d'avoir suivi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.
Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité.
Bon voyage, monsieur.
RM Show.
Bon voyage, je vous félicite pour la Voix d'Amérique.
Tout le monde. Les amis, ici c'est votre gars Roger Moutou en direct de Washington. Nous allons découler aujourd'hui avec les Rolling Stones. Aujourd'hui c'est samedi, R&B and Rock. Aujourd'hui c'est beaucoup plus rock et on décolle avec ce morceau.
I'm trying.
singing after dark, people think I'm crazy. Stopping on my feet, shuffling to the street, asking people, what's the matter with you, boy? Sometimes I wanna say to myself, sometimes I say,
la bonne musique aujourd'hui, les amis. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VOA Afrique. On est ensemble, 001-202-619-3140 de Rolling Stone. Et bien sûr, de Rolling Stone, connu parce que c'est pas un groupe comme les autres, hein. Ça, il faut quand même le dire. C'est un groupe qui a cartonné beaucoup pendant plusieurs années et que les amis d'Abidjan, de Kinshasa, de Libreville ont beaucoup adoré les chansons de Rolling Stone. Et d'ailleurs là, je suis en train de lire quelques messages des amis qui sont en train de nous capter en direct de Kinshasa, Cape Town. Et là, je vais parler d'abord de Alphonse Mbouaki qui nous capte en direct de Cape Town, Kinshasa, qui parle aussi de Rolling Stone. Vous savez, le Rolling Stone, c'était un groupe de rock britannique formé à Londres en 1962 par le guitariste et leader original Brian Jones, le pianiste Ian Stewart, les chanteurs Mick Jagger, qu'on connaît tous, hein, une grande star, et le guitariste Keith Richards, le bassiste Bill Wyman et le batteur Charlie Watts, qui les rejoignent aussi ensuite et complètent la formation originale. Jagger et Richards constituent rapidement un duo, hein, on doit le dire, d'auteurs-compositeurs, et prennent peu à peu la direction du groupe en lieu et place d'un Brian Jones de plus en plus erratique. Ian Stewart, jugé peu apte à jouer les idoles des jeunes, selon les préférences de l'époque, est renvoyé du groupe. Déjà, il faisait partie du groupe, mais il a été renvoyé après en 1963, mais continuera à travailler avec les Stones comme road manager. Voilà, un manager qui les accompagne dans des tournées et clavieriste aussi jusqu'à son décès en 1985. Le nom du groupe, The Rolling Stone, vient d'une chanson de Muddy Waters, Rolling Stone, choisie par Brian. Le blues a toujours été la source d'inspiration principale des Stones, qui ont été l'un des principaux acteurs du retour de cette musique sur le devant de la scène à travers le British Blues. If I could sing a love song so divine, bonne musique à partir de 1966 et de l'album Aftermath, les chansons des Jagger et Richard Ambili par les expérimentations instrumentales de Brian Jones développent une diversité stylistique, on doit le dire, qui restera présente jusqu'à nos jours. Hein. Jones meurt noyé dans sa piscine en juillet 1969, peu de temps après avoir été renvoyé du groupe. Il est remplacé par Mick Taylor qui participe à l'enregistrement de 5 albums studio avant de quitter les Stones en 1974. L'ancien guitariste de Faces, Ronnie Wood, prend alors sa place et la conserve depuis lors. Billy Wayman quitte à son tour le groupe en 1993. Le bassiste Daryl Jones rejoint alors le groupe sans en devenir un membre officiel. Les Rolling Stones, les amis, ont publié 22 albums studio au Royaume-Uni, 24 aux États-Unis, 8 albums live, 9 aux États-Unis et 32 compilations. En 2012, le groupe estime avoir vendu, écoutez, tenez-vous prêts, le groupe estime avoir vendu plus de 400 millions d'albums dans le monde. Aïe, 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 c'est pas petit. On écoute aujourd'hui le Rolling Stones.
Don't stop. Honey, don't De la bonne musique aujourd'hui, les amis, vous savez, ce groupe de Rolling Stones sont entrés, enfin les Rolling Stones, comme ils appelaient, hein, tout ça, sont entrés au Rock and Roll Hall of Fame en 1989 et Mick Jagger a été anobli par la reine d'Angleterre en 2002. Leur image de mauvais garçon rebelle véhiculé dans les années 1960 est une référence majeure pour les générations de musiciens rock qui les ont suivis après plus de 50 ans de carrière. Les Stones, tous septagénaires, hein, comme on doit dire, continuent à se produire sur scène et avec succès dans le monde entier et ne manifestent aucune intention de mettre un terme à l'existence du groupe. On est en train de déguster, bien sûr, ce morceau de Rolling Stones. Ce sont les stars, vraiment, vraiment des stars, on doit le dire, hein, beaucoup de respect. Je rappelle que ce groupe comprenait Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Charlie Watts et Bill Wyman.
Close my eyes.
la bonne musique que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui dans RM Show, une émission de VOA Africa. Les Stones symbolisent la vitalité de l'état pur et c'est pourquoi ils sont toujours présents aujourd'hui. Ça, c'est une citation de Martin Scorsese qui a parlé ainsi, qui pense ainsi, bien sûr, de Rolling Stone. Les Stones sont véritablement le plus grand groupe de rock de la planète et ils le seront toujours. Ils seront aussi les derniers.